Llego a Puerto, voy para Miami.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 7 août 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, malgré les rediffusions saisonnières, voici un programme original que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
C'était les quarts de finale, hein. La Belgique a logiquement battu le Japon 93 à 70. Hein. Faut dire que les Japonaises avaient un déficit de taille assez certain.
Oh non. Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end sur Radio FMR. Il va falloir faire un casting pour trouver de nouvelles voix parce que ça devient catastrophique. Bonjour Ultimatum, j'espère que tu vas bien.
Quoi, t'as une voix pourrie. Bonjour Das Creek.
Ouais, merci. Bonjour du sport. Non, du sport, il... Non, il peut pas là. Il y a une tripote, il y a robinetterie, qui a flanché, il y a de l'eau dans le gaz, il y a tout ce que vous voulez. Bonjour et bienvenue. Oui, c'est la même intro que la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps de faire plein de choses. J'étais vraiment au taquet. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire? Bah, vous vous rendez compte que la prog musicale, c'est la même que la semaine dernière.
Voilà, les films et les BD chroniqués, c'est les mêmes que la semaine dernière.
Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des disques. On nous a laissé un disque et les découvertes de Printemps de Bourges. Je suppose que c'est un message parce qu'on passe pas assez de quota de chansons françaises, d'expression française, d'expression francophone, excusez-moi. On va déchoir quand même de sa nationalité cette chanson-là. Ceci dit, il y a en ce moment, ce week-end, bah tiens, hop, puisqu'on va faire un programme à volo. C'est la 20e nuit des étoiles, c'est ce week-end tout simplement parce que on peut voir les Pléiades, les Perséides, pardon, excusez-moi. On est allé hier avec une bande de potes au musée de l'espace et comment dire, il y avait beaucoup de monde et même l'organisation du musée était complètement dépassée puisqu'on pouvait la cité de l'espace, oui. Excusez-moi.
Je me disais aussi tout à l'heure, mais bon, ça reste un truc que je connais pas.
On pouvait, il y avait des opérations avec des places limitées, donc il fallait retirer les tickets à l'avance pour y aller. Et en fait, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu faire tout simplement parce qu'il y avait, ils étaient complètement débordés. Voilà. Donc même en ayant les tickets, c'était un petit peu dommage, mais en tout cas, ça vaut le coup. Il y a des associations qui sont sur place, qui font de l'initiation, qui font des compteurs. Il y a l'exposition thématique de cette saison sur les extraterrestres. Donc tu as les extraterrestres qui circulent au milieu des gens. Tu peux faire.
Oui, c'est un peu d'actualité avec les dossiers top secret de l'Angleterre là qui sont ouverts au public.
Non, je crois que c'est en rapport avec Brice Hortefeux qui prépare sa politique. Émission décidément qui part à volo. Là, je sens ça. Je sens qu'il va avoir un dérapage sur la politique tout à l'heure. Bref, ça vaut le coup. C'est un peu partout en France pour ce week-end. Pour ceux qui sont dans la région à Toulouse, ben, il y a une carte du ciel explicative. Alors, vous étonnez pas. Des fois, il y a des textes qui sont à l'envers. Faut retourner en avant, en arrière, comme ça. Mais c'est assez sympa. Je crois d'ailleurs que aussi ce soir aussi, c'est ouvert gratuitement la Cité de l'Espace. Je ne suis pas sûr. Comme quoi, on le fait à volo.
Et il y a Space Mountain là-bas ou?
Oh, il y a trois fois rien.
D'accord.
Sortie bande dessinée avec le troisième tome de Angel Voice de Takao Koyami. Donc ça parle de foot, c'est une collection d'Arcana et où l'équipe de France est actuellement en pleine purge. Donc tous les lycéens sont en conseil de discipline, notamment Djurkaef et les autres. Hop, zou.
Djurkaef. Pourquoi pas Djurkaef? C'est toi qui as les deux premiers, Zus? Ah, il avait le micro fermé.
Oui, bah, c'est le sien qui est éteint. Oui, il est éteint. Rente de Natsumi Ono, où c'est l'histoire.
Je les ai rendus.
Où c'est l'histoire, en fait, d'un restaurant italien à Rome, tenu par des garçons hyper sexy et qui n'a que des clientes et qui est plein. Donc, c'est le troisième tome. Et voilà, c'était sorti bande dessinée. Maintenant, le cinéma.
Ah oui, mais ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé. Il n'y a pas une animée sur ça ou...
Non.
Non? Non, parce qu'on m'avait parlé d'un duel de pizzaiolo en Italie, mais ça doit pas être ça, alors ça doit être autre chose. En
tout cas, est-ce que ça... Au fond, avec le dernier Terence Hill et Bud Spencer.
Est-ce que ça donne envie de manger des pâtes, au moins? Non?
Bon. Ça donne envie de dormir.
Ah, c'est pas bien, alors d'accord. Tiens, si tu veux...
Non, c'est pour les filles.
Ah, c'est pour les filles.
On n'est pas des filles.
Et Thomas embraye directement avec le ciné.
D'accord.
Oui, bon, d'accord. Non, mais en fait, je viens de retomber sur mes fiches et je me suis rendu compte que j'avais préparé quand même une émission. Donc voilà.
Non, parce que je me disais, tiens, il suit pas le plan, mais bon, ça change pas d'habitude, mais.
Avec la nouvelle série de Rumiko Takahashi. Personne que vous connaissez forcément. Deux premiers tomes sont sortis, il s'appelle Rine. Je vais rentrer direct dans le pitch. Ça sort chez Kaze dans la collection Shonen Ump. C'est une histoire d'adolescente qui s'appelle Sakura Mahima, qui est une lycéenne un peu rêveuse.
Sakura.
Il y a des cerisiers partout là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un peu rêveuse, qui a des réactions assez étranges. En effet, elle voit des gens morts. Toute petite, elle avait disparu et mystérieusement réapparu une semaine après. Depuis cet étrange événement, elle voit les fantômes. Par un étrange coup du sort, elle s'était en fait retrouvée dans l'entre-deux-mondes et en petite fille trop choupinette et gourmande, elle y a mangé un bonbon, ce qui lui a donné ce pouvoir si spécial. Ainsi que les rêves apaisants où elle voit une immense roue dans le ciel. Alors évidemment, les plus bouddhistes d'entre vous, même si je sais que ça n'est pas une religion, je vais dire majoritaire dans ce pays, auront pensé de suite à la roue de la réincarnation, où les âmes des personnes mortes vont vers un nouveau destin, étant recyclées en âmes de renoncule, en petits rongeurs ou à nouveau en humains, voire en pull en lycra pour les moins chanceuses de leur voiture. Donc Sakura est une lycéenne et un jour, elle croise un étrange camarade de classe, Rine, celui qui porte le nom dans la série. Rine, au lieu de porter l'uniforme de son établissement, il est tous les jours en jogging de collégien. Je rappelle qu'on est au lycée, ça la fout un peu mal. Il peut disparaître à la vue de tous, sauf aux yeux de Sakura. En fait, Rine n'est pas un fantôme, mais le croisement entre un Shinigami... Bon, ok, on va pas s'en sortir. Donc tout à l'heure, j'ai fait un jeu de mots sur Sakura, qui veut dire « cerisier ».
Shinigami, tu le retrouves dans Bleach aussi, ça doit être un terme un peu générique.
C'est une divinité plutôt shintoïste en rapport avec la mort. C'est pas la faucheuse en elle-même, mais c'est tout ce qui accompagne la mort. Ce serait difficile de faire le lien avec tout le reste du sport. Lui, il est en train de me dire, t'as rien compris, t'as pas suivi assez les films hindous que je t'ai passé.
Ouais, ça n'a rien à voir en plus.
C'est pas du tout la même religion, c'est Shinto pur et dur. Bref, Rinmei est le croisement entre un Shinigami et un humain. Rinmei a en fait une mission à la fois d'exorcisme et d'accompagnement des âmes vers l'au-delà. Bref, c'est un lycéen qui a un abeito, un petit boulot, consistant à récupérer les âmes en perdition pour les amener à se réincarner. Sauf que ce travail est d'abord, 1, assez mal payé, et 2, demande beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup pognon. Bah oui, la moindre action dans les mondes des fantômes, le purgatoire, l'enfer, bah il faut du pognon, que l'orphelin n'a pas un sous-vaillant devant lui, ça tombe mal. Or, des fantômes dans le quartier du lycée, c'est pas ça qui manque, allez savoir pourquoi. Et il faut vite les sortir du monde des humains avant qu'ils ne deviennent de mauvais esprits. Parce que s'ils deviennent des mauvais esprits, eh ben ils vont cracher de la purée de peau aux passants, ils maraboutent les forfaits iPhone qui vont se retrouver avec 6 chiffres avant l'euro, et ils vont dérégler les réveils matins, les matins d'examen, où ils vont donner des mauvaises idées aux gens. On ne sait jamais, peut-être qu'en ce moment, des âmes damnées des années 30 n'influent pas négativement certains ministères de notre beau pays.
Encore ?
Non, mais pardon, excusez-moi. Rine est d'un naturel taciturne, souvent absent en classe, complètement fauché, va donc se retrouver à côté de Sakura, qui voit la même chose que lui, et c'est parti pour des aventures formidables. Voilà. Bon, alors Rumiko Takahashi, vous la connaissez forcément. Si je vous dis Urusei Yatsura, Lamu,
oui.
Maison Ikoku,
Juliette, je t'aime.
Ouais, ou encore Ranma 1/2.
Ah, c'est elle qui a fait tout ça ?
Eh ben, exactement, elle a une immense carrière en bande dessinée plutôt humoristique dans les années 80. Quoique Juliette je t'aime, c'est plus la comédie demeure, c'est pas franchement forcément humoristique. Hein.
Ouais. Enfin, c'est en tout cas le dessin animé, on connaît que le dessin animé, perso.
Mais ça a été édité chez Glénat.
Oui, mais j'ai pas lu la BD.
Bon, d'accord, ok. Enfin, il y a 6 tomes si tu veux.
Bon, excuse, mais quand tu vois la gueule du dessin animé, ça donne pas trop envie de regarder de lire la BD, mais.
Donc Rumiko Takahashi a fait des séries plus fantastiques et plus tragiques comme Mermaid Forest qui n'a jamais décollé en France et qui est assez noir hein, quand même, qui a été édité chez Glénat mais uniquement un seul tome et c'est vrai que la qualité d'édition n'avait pas franchement aidé. Et beaucoup plus récemment Inuyasha. Alors quand je vois son nom sur une nouvelle série,
ah ben oui Inuyasha,
je me pourlèche les babines. Et hélas, je n'ai pas été convaincu. Je suis d'autant plus déçu que sa dernière grande série, Inuyasha, utilisait pratiquement une disposition identique des personnages. Le garçon taciturne, la jeune lycéenne complètement paumée, les personnages familiers récurrents, c'est pas des smomblifs, mais c'est à peu près la même chose, tu vois. Mais ça avait amené à une saga où souffle les pics, relativement rapidement, en plus des gags. Et ben là, dans les deux premiers tomes, j'ai plus l'impression d'avoir une suite de gags sur un thème fantastique et au dessin moins bien abouti. Mais bon, qui sait si la princesse du manga ne va pas nous surprendre dans les pages à venir. Je ne peux que vous le dire, je ne peux vous le dire dans l'immédiat ce que sera par la suite de cette série, parce que tout simplement, la série a été lancée au Japon l'an dernier et elle est déjà publiée en France. Faut dire que les éditeurs français vont de plus en plus vite. Mais faut savoir qu'aux États-Unis, Riné de Rumiko Takahashi est sorti 5 jours après la publication en album au Japon. Donc peut-être ça devient la norme, c'est on fait pratiquement la publication simultanée suivant les pays. C'est dans la collection Shonen Up chez Kazemanga, c'est de Rumiko Takahashi qui a une immense carrière à succès. C'est du fantastique humoristique et c'est censé être pour les garçons.
Voilà. C'est vrai, quand tu vois le design, c'est pas forcément très, très clair. Parce que, alors, je précise un truc, parce que vous avez pas le visuel, mais vous avez totalement raté la mood du sport, parce que c'est moi qui avais les BD entre les mains.
La caméra était du mauvais côté.
Je montre à du sport, il fait la mood, il dit, oh, il y a encore des BD à lire, puis il regarde, et puis, ouais, finalement, et hop.
Pourquoi il y a un public masculin? Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, il est 12h11, c'est le supplément week-end numéro 247. Oui, non, je faudrait pas que je me trompe dans les comptages quand même, ce serait débile. Nous sommes heureux d'être avec vous, même s'il fait un peu frais. On va passer à une toute autre ambiance avec Jiro Matsumoto. Alors rien à voir avec Leiji Matsumoto. Matsumoto, c'est un Dupont au Japon, donc c'est extrêmement courant, connu et commun. Mais néanmoins, c'est un auteur qui a un trait qui est assez jeté et ça tombe bien parce qu'il a fait une histoire complètement barrée. Ça sortit dans la collection Seinen, toujours chez Kazemanga, et c'est une nouvelle série qui s'appelle Freesia. Le premier tome, donc, imaginez un pays en guerre. Bah, notre époque ou dans un futur proche. Une très grande puissance économique, politique, industrielle, qui a déclaré une guerre envers une autre très grande puissance, sûrement pour des raisons peu avouables, puisque la propagande martelée aux citoyens parle d'une guerre sainte. Afin de passer ça comme une lettre à la poste devant le Parlement, le gouvernement a cédé aux bas instincts des partis politiques d'un bord particulièrement extrême en faisant passer une loi qui destitue de sa nationalité tout criminel.
Oh, pardon. Oui.
Oh, excuse-moi. Hein non, d'accord. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dû m'inverser dans les fiches. Vous savez, comme ça, je suis désolé, mais par confusion, je sais pas, je devais écouter la radio, les informations, toute autre fiction, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je reprends donc avec la bonne fiche. Donc, afin de pallier, justifier à cette guerre et pallier à son manque de popularité, le gouvernement japonais s'est attiré les faveurs d'une certaine opinion en faisant passer la loi du talion. Bon, c'est hyper simple. Quelqu'un a tué un de vos proches, a été jugé et il a purgé sa peine que lui a imposée la société en prison. Mais une fois sorti, il reste la peine des familles. Et donc, il reste une dette. Le gouvernement autorise une famille à embaucher une agence spécialisée dans la vengeance. Selon des règles très précises, cette agence va prévenir la famille adverse qu'elle va tenter de tuer le criminel dans certaines tranches horaires.
Sympa.
Qu'elle a le droit de faire appel à un défenseur armé ou de se défendre seule. Et que toute mort qui aura lieu pendant la confrontation entre les deux parties lavera le sang dans le sang, le différent de la dette. Hiroshi, le personnage principal de l'histoire, est un jeune homme sans emploi. Il vit avec sa mère complètement gâteuse et sa petite amie dans un appartement complètement décrépit, en tout cas aussi décrépit que l'est sa propre santé mentale. Bon, faut dire que sa copine ne tripe que si elle se fait sauter au-dessus de la mer, trompe allègrement Hiroshi avec son meilleur copain, bref, le pauvre garçon est complètement à la dérive. Et pourtant, il est content. Il est content car il a été recruté par une entreprise spécialisée dans la vengeance. Lui qui n'a aucun diplôme, même pas le permis, qui n'a pas fait grand chose pendant son service militaire, il va devoir passer un examen d'exécuteur supplément. Oui, forcément, le métier est un petit peu technique. Il faut maîtriser les outils de base comme le revolver, les arcanes de ce qui est autorisé loi, le soutien psychologique aux familles des personnes que vous allez tuer. Et bien évidemment, il y a l'esprit de la loi et son application. Surtout quand ce sont des officines privées qui font cette délégation de... service public, et quand un des agents assermentés est un psychopathe complet, donc finalement on ne sait pas vraiment quel a été son passif militaire, on doute que ça risque de mal tourner à n'importe quel moment. La loi, la justice, la vengeance. Frisia est dérangeant, malsain, complètement irrévérencieux. Nous parlons régulièrement dans cette émission de la portée sociale qu'a eu le polar dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 70 en France. La description de l'âme humaine, de la manipulation, du cynisme, des bas instincts dans ce manga est aussi une manière de dénoncer certaines politiques qui amènent à des discours démagogues, des lois complètement iniques et finalement une désagrégation des valeurs morales revendiquées par ce même pouvoir politique. Finalement, les valeurs de notre civilisation sont tout à fait relatives, voire complètement élastiques. Il suffit de mettre un bon publicitaire, avec une Rolex, si possible, pour faire passer le totalement inacceptable en parfaitement justifié. Ah oui, excusez-moi, on me fait signe qu'il faut que je passe la mention légale. Cette œuvre est une fiction. Elle n'a aucun lien avec des personnes, des groupes de personnes ou des événements réels. La bonne blague. Jiro Matsumoto, Frisia, le premier tome s'appelle Seinen. Jiro Matsumoto, le premier tome de la série Frisia est traduit en France dans la collection Seinen chez Kazemanga. C'est une manga adulte, crade, non safe for work, avec un dessin très jeté et l'histoire à peu près tout autant.
Le prénom du mangaka, c'est encore en hommage à Jean Giraud. Non,
Giraud est aussi un prénom très courant.
Ah bon?
Giraud Taniguchi, non, Giraud...
Oui, sauf que Taniguchi, c'est clairement un hommage à Jean Giraud.
Et en guise de pseudo. Je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est un pseudo ou non, j'ai pas pu enquêter. Et en plus, comme c'est, je crois que c'est une de ses premières œuvres et que c'est sorti il y a moins de 2 ans au Japon... Je maîtrise très mal la traduction automatique de Google sur les kanji pour pouvoir m'enseigner là-dessus. Puis à vrai dire, j'ai écrit la chronique à 11h35. Donc. Annonce d'intérêt collectif et privé à l'association Radio FMR. Celui qui a oublié la compilation et découverte du printemps de Bourges et de la FNAC, dont la radio est partenaire à côté d'une radio soi-disant pour jeunes et de magazines plus ou moins culturels, ainsi que du réseau Printemps, ben vous inquiétez pas, hein, il est en bonne main et on va s'écouter un extrait du deuxième CD dans la catégorie World Music. Je vous présente le Jacques Orchestra avec Marchand de Tant Pis.
Grand marché des occasions ratées, j'installe mon étal entre le marchand de soupirs et le vendeur de regrets. J'installe mon étalage, marchand, tant pis pour ta gueule, pour les jours aigris, et tant pis, pis de chat, pour les jours de pluie. Oh tant pis pour cette fois, elle était trop belle, trop belle pour moi, tant pis. Tu peux ranger tes fleurs, tes bouquets de couleurs ici. Ça prend pas. Et baisse les yeux, ton regard d'opéra. Qu'attends-tu avec ça? Je préfère quand t'as peur des épines au bonheur. Tu rappelles ton dealer. Oh, entre nous c'est pris d'amis, et le désespoir c'est gratuit. T'en veux? Non, tant pis. Oh tant pis. Marchand, tant pis, on a fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Promotion jamais vue sur le coup de pied au cul. Oh, oh. Allez, dégage, manche misère, t'auras pas notre espoir. On le garde pour le grand jour, pour le grand soir. Nos fiertés retrouvées sous des cieux radieux, on pourra enfin regarder nos enfants dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Dans les yeux, dans les yeux.
Comment ça, c'était de la World Music? Oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant! Qu'est-ce qu'il est méchant, Duce! The Jacques Orchestra, Marchand de Tant Pis.
Allez, on continue avec la BD et avec le retour de Spider-Man dans vos kiosques.
C'est Je te préviens! Attention. Il y a un seul extraterrestre!
Il y a un seul Skrull! Une seule référence au
nom!
Et une seule référence au tueur au traceur et tout, attention! Hein.
Ah! Ah! Non, j'en dirai pas plus. Alors, dans ce numéro 127, je vous ai pas parlé du numéro 126. J'avais fait un gros spot sur le 125, qui était en fait l'équivalent du 600e numéro de Spider-Man depuis le début de Spider-Man, c'est-à-dire le 600e aux États-Unis. Et donc, il y avait une grosse histoire complète dans le numéro 125. Et dans le 126, en fait,
C'était les suppléments, c'est-à-dire c'était un ensemble de petites histoires, des fois des 4 pages, des 5 pages, des 6 pages, mais dessinées et scénarisées sous la plume des plus grands, on va dire, hein. C'est-à-dire tous ont voulu rendre un hommage à l'occasion de ce numéro 600 à Spider-Man qui les a fait travailler dans le passé, enfin bon, et donc des petits trucs vraiment sympas. C'était vraiment très sympa, mais ça n'influe pas du tout sur le Brand New Day, c'est-à-dire Spider-Man depuis le numéro 100, édition française, c'est-à-dire l'histoire dans laquelle nous sommes actuellement. Je vais pas revenir sur les débuts de ce Brand New Day. Faut simplement savoir que eh bien, à la fin du numéro 124, qui sait qu'on voit apparaître à la dernière image, hein, une revenante.
Ah, MG. Oui,
MG, Mary Jane Watson. Mais si on se rappelle bien, c'est que
c'est un clone.
Oui, non, pas du tout. Si on se rappelle bien, à partir du numéro 100, comme bon, les pendules ont été un petit peu remises à l'heure, eh ben il y a plus de mariage entre Spider-Man et Mary Jane Watson. Donc ils se connaissent bien sûr, mais ils n'ont aucun souvenir ni l'un ni l'autre qu'ils ont été mariés de toute façon. Et de fait, Mary Jane Watson, on va la prendre.
Oh, la ficelle scénaristique.
On va la prendre dans ce numéro. Eh bien, est partie de New York, est devenue mannequin super célèbre et tout. Et maqué avec un jeune acteur qui est en train de convoiter le rôle ultime à Hollywood, à savoir la version cinéma de Captain America. Ouais, mais bon, ça va pas se passer exactement de cette façon-là. Et d'un autre côté, du côté des copains de Peter Parker, hein, Peter Parker qui est toujours pourchassé comme étant l'ennemi ultime de Jonah Jameson, ex-directeur du Daily Bugle et qui est maintenant maire de New York, je le rappelle, hein, et qui a formé une équipe spéciale anti-Spider-Man, carrément, quoi, hein, pour essayer de le choper. Oui, Spider-Man, il essaye de zoner un petit peu avec donc son meilleur pote Norman Osborn, qui après l'aventure d'American Son, où son père Harry Osborn, le fils de Norman Osborn, son père qui est directeur du Hammer, donc qui a remplacé Tony Stark, a essayé de le faire de le faire devenir carrément le nouveau Iron Man, hein, en lui confectionnant une armure, tout le bordel, et en l'appelant American Son, puisque bon, c'est le fils de Norman. Ça a pas réussi du tout, hein, ça c'est clair, parce que Harry a découvert quelle était la finalité en fait quel était le raisonnement tordu de son père, et donc a décidé de tout larguer. Et là, il a trouvé un petit boulot. Enfin bon, il végète et tout. On sait pas trop où il habite et tout. Il est carrément presque homeless, quoi. Hein, c'est-à-dire presque à la rue. Hein, dans ce numéro, on va voir qu'il arrive à se refaire des petites copines très sympathiques, des petites copines que Peter Parker connaît très bien, parce que ce sont ses cousines. Hein, je rappelle que avant ces numéros-là, il y a eu quand même le mariage de Tante May avec le père de Jonah Jameson, qui a un super mec vachement sympa et tout, qui a rien à voir avec son fils, hein, de toute façon, quoi. Et donc de ce fait, toute la famille est venue, dont les petites cousines super mignonnes de Peter Parker. Et là, dans ce numéro, on apprend Peter Parker, qui aurait eu facile pour se taper une des petites cousines, hein, tranquille, hein, il est beau mec et tout, cool, et bon, il est quand même Peter Parker, c'est-à-dire le mec un peu indécis, un peu timide, qui doit cacher sa double identité, bien entendu, hein, donc c'est magouille un petit peu secrète, et donc en fait c'est Harry Osborn qui va se taper une de ses petites cousines, mais il va quand même y avoir un petit rapprochement entre Peter Parker et Mary Jane Watson. Mais ça, c'est à la toute fin de ce Spider-Man, parce que on était en milieu d'une aventure où surgissait l'un des premiers anti-héros, l'un des premiers super-vilains historiques de l'histoire de Spider-Man, en 63, en 64, le caméléon. Et là, un nouveau caméléon revient, et ce nouveau caméléon endosse l'identité de Peter Parker, c'est-à-dire devient un clone de Peter Parker pour servir ses intérêts qui sont un petit peu malsains. Je vais pas en dire plus, mais bon, heureusement, Peter Parker, hein, qu'on croyait perdu à tout jamais, hein, plongé dans un bain d'acide et tout, enfin bon, la peau du visage arrachée pour que justement le caméléon puisse remettre le visage de Peter Parker et ressembler à Peter Parker, ben ça va pas réussir exactement. Ben c'est normal, hein, Spider-Man s'en sort toujours de toute façon. c'est un peu clair. Mais par contre, eh bien, on va en apprendre un petit peu plus sur les tenants et aboutissants de ce fameux caméléon qui en fait n'est pas tout seul, et ça va donner lieu à une retrouvaille et à la réapparition de quelqu'un qu'on connaît beaucoup. Énormément, hein, mais qui date également de la période historique de Spider-Man dans les années 60, avec les premiers super vilains qu'on connaît, hein, je vais pas tous les citer, mais ça va être quelqu'un qu'on connaît très bien et qui fait une réapparition comme ça, et on se dit que ça va donner du blé à moudre pour Spider-Man dans les prochains épisodes, je vous en dis pas plus. Alors... Le numéro 127 donc est entièrement consacré donc à Mary Jane Watson en filigrane, on va dire, hein, et en personnage principal aussi. Ça s'appelle Red-Headed Stranger Part 3, Part 4 et épilogue. Le scénariste c'est Fred Van Lente pour tous les numéros. C'est un nouveau scénariste qui est sur le Spider-Man aux États-Unis. C'est lui, hein, qui est le big chef au niveau scénariste. Les dessinateurs, ils sont plusieurs au fur et à mesure des épisodes. Robert Atkins, Barry Kitson, Luke Ross. Et à l'ancrage, on a également Victor Olazaba, Barry Keaton, Robert Ketchum et Rick Maguire dans ce numéro 127 de Spider-Man. C'est le numéro de août disponible dans tous les bons kiosques.
Superman par Dave Mustor.
Thank you.
Back in the Chip Tunes Melody, le Super Weekend sur Radio FMR, Superman par Dubmaster. Et on va dans de l'orchestral. Le cinéma vous est présenté en 2D monoral par Ultimatum.
Et oui, aujourd'hui, on parle un petit peu de films pour les plus jeunes, avec des pouvoirs, de l'héroïque fantasy, des moines et des gens qui...
Tu m'as dit que c'était Night Shyamalan.
Eh ben oui, justement.
Bah non, 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 je suis désolé, il y a toujours des messages à double contexte, c'est toujours très noir, c'est désespéré, il y a de multiples niveaux de lecture, il y a des références très précises, et puis c'est franchement pas pour les enfants, quoi.
Ah non, mais tu as mis le doigt sur
Ok, bon, si ça part comme ça, ça part en couille, la société se barre n'importe comment. Putain, moi je me barre. France, terre d'exil.
Ah, on va pouvoir parler tranquille.
Cool.
Alors, le dernier maître de l'air de M. Night Shyamalan avec Noah Ringer, Dev Patel, Sunbug Millionaire, souvenez-vous.
Et Poutine.
Skins.
Oui, Skins aussi. Nicolas Peltz et Shaun Tube. Alors. Les peuples liés aux quatre éléments.
Alors attends, je voudrais te poser une question avant que tu commences.
Oui.
Logiquement, c'est tiré du dessin animé. Donc, et pourquoi est-ce que tu sais pourquoi Night Shyamalan a préféré le titre Le Dernier Maître de l'Air?
Oui.
Est-ce qu'il y a une raison par rapport à James C?
Oui, tout à fait. James C a menacé de procès.
Ah d'accord.
Il a dit, à partir du moment où il y a mon film qui s'appelle Avatar, vous, je vous vois venir, ben vous n'avez pas le droit de l'appeler Avatar aussi.
Mais pourtant, moi je regardais Avatar le dessin animé depuis avant, depuis au moins 2 ans
oui,
avant
oui, oui. Le dessin film. Animé.
Ah ça venait de là, toutes les rumeurs sur le net, je comprenais pas.
Le dessin animé a existé bien avant le
bien
projet.
Bien sûr, à l'aise.
Voilà, et ça s'appelait Avatar The Last Airbender. Donc ils ont gardé The Last Airbender et ils ont enlevé Avatar.
Ok.
Donc Avatar, c'est officiellement le film de Cameron. Et Avatar dessin animé, ben, l'adaptation s'appelle juste The Last Airbender, donc le dernier maître de l'air. Alors, les peuples liés aux quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, vivent en harmonie entre eux. Le seul être capable de maîtriser tous les éléments, donc l'Avatar, lui, il veille sur la paix au fil de ses réincarnations, parce qu'il voilà, il se réincarne, chaque nouvelle réincarnation doit réapprendre à maîtriser les quatre éléments, et donc lui, il garantit un peu la paix sur Terre entre les peuples. Mais Aang, tout jeune maître de l'air, et c'est le nouvel Avatar en fait, il a été porté disparu pendant un siècle, et il se réveille de nos jours après avoir été emprisonné dans la glace en fait. Et durant cette période, on a profité la Nation du Feu pour déclarer la guerre aux autres peuples et interdire la pratique des éléments autres que le feu. Malgré son apprentissage inachevé, Aang, le petit, il va falloir qu'il comme c'est le nouvel Avatar, il va falloir qu'il remette un peu d'ordre là-dedans. Excusez-moi.
Oui, c'est clair.
Attends, j'ai pris un coup d'air en fait, c'est le Aang. Et Aang, aidé de voilà, humour. Et Aang, aidé de ses amis Sokka et Katara de la tribu de l'eau, part à la découverte des autres éléments. Sauf que il va avoir le feu au cul, humour, puisque la Nation du Feu va essayer de le poursuivre. Et on apprend aussi dans le film que si l'héritier du grand chef de la Nation du Feu, c'est le prince Zuko, s'il en a autant après Aang, et ils sont à peu près, Zuko est à peine plus âgé que Aang, et ben c'est surtout parce que Zuko a été banni, et pour rattraper son honneur, et ben il doit absolument livrer l'avatar à son père pour réapparaître à ses yeux comme un fils digne de ce nom. Alors, justement, Xavier avait mis le doigt justement sur la problématique du projet, n'est-ce pas ? Shyamalan, qui est donc le grand gourou du film fantastique minimaliste, capable de vous scotcher en sueur au siège en filmant juste un trombone. Qu'est-ce qu'il est allé venu faire dans cette galère en adaptant un dessin animé diffusé sur Nickelodeon et sur TF1 avec des pouvoirs de partout, des moines, des gens qui manipulent la terre, l'eau, l'air, le feu, avec des effets spéciaux de partout, des combats de super-pouvoirs ?
J'ai un début de théorie. C'est parce qu'il lui est arrivé la même chose que pour un réalisateur mexicain connu à peu près pour un certain film de genre. Et un jour, les gosses lui ont dit « Papa, tu veux pas faire un de nos scénars ?»
Voilà.
C'est ça, c'est, il a des gosses lui aussi.
Il a des gosses lui aussi.
Ah, oh, pas de bol.
Donc il a dit,
ah, la peste.
Oh, ben moi j'aurais bien aimé avoir mon Star Wars, j'aurais bien aimé avoir mon Seigneur des Anneaux. Alors du coup, ben...
Papa, t'as les meilleures histoires à raconter, mais avec des images.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, Shyamalan s'est dit, tiens, je vais avoir ma trilogie à moi. Puisque bon, tout le monde savait qu'il avait un peu un lien de parenté avec... il se disait un peu héritier de Spielberg pour le talent de conteur et tout. Mais, sauf que lui, c'était vraiment dans l'économie de moyens, il filmait un courant d'air, c'était les forces obscures de la nature qui se liguaient contre les humains et tout. Et c'était vraiment l'économie de moyens pure et dure. Et là, c'est vrai qu'un festival de plans séquences avec déchaînement de pouvoir, tiens, prends-toi mon courant d'air dans la gueule et moi je réplique avec ma boule de feu et moi je réplique, je fais un bouclier avec l'eau qui devient de la glace. Donc là voilà, on n'est pas du tout dans Shyamalan, sauf que eh bien, finalement au niveau des thématiques tu te rends compte que Shyamalan, eh bien, il n'a pas adapté n'importe quoi non plus. Parce que si vous suivez un peu la filmo de Shyamalan, c'est quand même quelqu'un qui a il a pas fait juste un film sur les fantômes, sur les super-héros, sur les envahisseurs extraterrestres. C'est quand même quelqu'un qui s'était attaché à dépeindre un petit peu la cellule familiale. Il décrivait toujours des rapports entre un père et ses enfants. Il y a toujours des gamins. Il y avait toujours des problématiques avec des personnages qui se posaient la question quelles étaient leurs places dans l'univers. Ils devaient s'accommoder de la vision qu'avaient les gens de lui-même, et par exemple ils avaient des pouvoirs ou ils avaient un rôle à tenir, par exemple le rôle de prêtre de Mel Gibson, le rôle de super-héros qui s'ignorait pour Bruce Willis dans Incassable. Et c'est vrai que c'était les thématiques des gens qui devaient être à la hauteur de ce que les autres attendaient d'eux, ou qui passaient à côté de leur destin et qui découvraient leur destin au fil des films. Et c'est vrai que là, dans la série animée Avatar, bon, même c'est une série pour les gamins, donc la trame s'articule surtout autour de la relation d'amitié entre Aang, qui est maître de l'air, Katara, qui est maître de l'eau, et Sokka, le frère de Katara, qui est plutôt l'élément comique, on va dire, puisque c'est un gars qui a pas de pouvoir, c'est un peu maladroit, il s'intéresse un petit peu aux filles.
Le sidekick, quoi.
Le sidekick, exactement. Il a aussi des animaux volants, les petits animaux qui vont avec, très disneyens. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi la quête de redécouverte du monde par Aang, parce que lui, c'est quand même un gamin qui a pas encore vécu son enfance. Et malgré le fait qu'il soit avatar, bah, il veut quand même un peu s'amuser. Donc c'est le mix entre la découverte de ses responsabilités et aussi essayer de découvrir le monde par les yeux d'un gamin. Donc c'était ça la problématique aussi de la série. Et comme il avait aux fesses Zuko qui essayait de mettre la main sur lui, tu voyais dans la série que Zuko c'était pas vraiment un enculé 100%. C'était un jeune qui voulait se racheter aux yeux de son père, et il était secondé par son oncle qui était vraiment bon vivant, un peu rendouillard, qui était juste un gars maître du feu super fort, mais on le voyait jamais combattre parce que c'était quand même quelqu'un qui avait la notion du sacré, qui aimait bien tempérer un peu son jeune neveu, etc. Et Shyamalan, justement, très sensible justement aux thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, il a exploité les deux directions, que sont la culpabilité de Aang par rapport au massacre des moines, parce qu'en fait quand il y a eu la cérémonie où il est présenté en tant qu'avatar officiellement auprès de ses congénères, eh ben, il s'est barré. Il s'est dit, moi si c'est comme ça, je vais pas avoir de vie, je vais pas avoir d'enfance, je vais pas avoir de famille, donc moi si c'est juste pour pas vivre, eh ben, je me barre en fait. Donc il a abandonné ses copains moines. C'est là, entre temps, quand il s'est retrouvé prisonnier de la glace, que tous les moines ont été massacrés par les gars de la Nation du Feu. Et justement, le fait de se sentir coupable, il ne peut pas véritablement apprendre à maîtriser les autres éléments, surtout que, comme il choisit d'apprendre en priorité l'eau, il faut être vachement apaisé, il faut être en paix avec soi-même et vachement axé sur la méditation. Donc c'est pas innocent si la découverte du monde de Aang commence par l'eau aussi. Il doit apprendre à
se contrôler
et puis surtout arrêter de culpabiliser. Bon voilà. Et il y a aussi Zuko, sa relation avec son père qui est parfaitement rendue par rapport à la série animée. C'est assez fidèle et c'est voilà, Shyamalan a gardé justement le côté ambivalent chez Zuko, où tu te prends de sympathie pour lui. C'est quelqu'un qui est loin d'être un idiot. C'est quelqu'un qui a tout en lui pour devenir un grand chef de guerre. Sauf que il est banni, il a plus d'honneur et tout le monde se moque de lui. Alors le verdict, le film, c'est on peut pas dire que le film a peur du trop plein d'aventures, parce que là franchement t'en as jusqu'à la gueule. C'est un peu le syndrome Harry Potter dans les derniers épisodes, si tu veux. C'est un condensé en fait des bouquins. Donc là c'est un condensé de la série animée Avatar, et Et en fait, on dirait qu'ils ont essayé de prendre les meilleurs épisodes. Et au lieu d'essayer d'adapter à un rythme cinéma, tiens, on va prendre cette anecdote-là, mais on va la retranscrire. Mais en fait, non, ils prennent telle quelle. Et à peine tu as le temps de te remettre dans une aventure, pof, il passe à une autre. Et c'est ça, c'est le rythme empathie un petit peu. Ah, t'as l'impression que le film était destiné à la base à être beaucoup plus long, mais ils l'ont vachement compressé. C'est un peu dommage, surtout que à cause de ça, je pense que les gens qui ne connaissent pas du tout la série animée, ils pigeront que dalle. Toi, tu l'avais vu. Oui, moi j'avais suivi la. En fait, ce premier film, donc c'est une trilogie, le cycle de l'eau reprend la première saison de la série. C'est la seule saison que j'ai vue. Donc c'est vrai qu'ils ont été super fidèles à ce qui se passait dans la saison. Des épisodes pris un par un, par exemple, il y a un épisode où il y a Zuko, pour éviter que ses rivaux dans la Nation du Feu mettent la main sur l'Avatar avant lui, et ben il va se grimer et secourir justement Aang, l'Avatar, pour que ce soit lui qui mette la main dessus après. Et ça, c'est gardé tel quel. Sauf que c'est un peu anecdotique, si tu veux, dans un film. Bon, ils auraient pu le retranscrire. Non, ils reprennent tel quel. C'est un peu dommage. Et c'est vrai que ce côté ultra compressé, ça fait un peu au détriment des émotions. C'est-à-dire que le cliffhanger de la saison 1, je dis pas ce que c'est, mais c'est censé être super émouvant parce qu'il y a un personnage qui est adorable, qui sacrifie pour le bien commun et maintenir un petit peu la santé de certains esprits. Et dans la série, t'es juste abattu parce que le personnage est super sympathique. Et dans le film, ouais, c'est bon, un sacrifice, ouais, c'est bon, on passe à autre chose, allez, c'est fini. Voilà, c'est un peu dommage. Au niveau du casting et de la fidélité, bon voilà, plus fidèle tu meurs. Le héros, le personnage principal, bon, c'est juste parfait. Très rares sont ceux qui sont ratés, moi j'en trouve pas. Il y a juste effectivement l'oncle de Zuko qui est l'acteur est super bien, mais il a un côté plus grand maître qui est un peu en dedans, que tu sens qu'il a le gros potentiel. C'est pas vraiment le débonnaire de la série, mais c'est un autre éclairage, on va dire. C'est un gars, je pense qu'il faut pas trop le faire chier, mais tu sens que c'est quand même un bon vivant. À un moment donné, t'as un long Shyamalan est habitué au plan séquence avec caméra qui tourne, panoramique, ou peu de coupes, et là t'as une scène qui se déroule sur le bateau de guerre, et tu vois à la fin de la scène que en fait l'oncle est en train de se faire masser les pieds. Donc c'est des gars comme ça qui sont dans la scène, genre il part normalement avec le neveu, puis à la fin tu vois qu'il y a une nana au premier plan qui est en train de lui masser les pieds. Voilà, c'est assez bien rendu de ce côté-là. Donc casting super, fidélité très poussée à l'extrême par rapport à la série, mais au détriment peut-être des émotions. Alors moi je sais pas, moi j'ai vu la série, donc je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui connaît pas la série. Je pense que ça va, le rythme va lui sauter aux yeux, et peut-être que ça va être bizarre, mais je sais pas. En tout cas, c'est un film à conseiller, chaudement aux connaisseurs de la série, parce qu'ils retrouveront tout ce qui fait le charme de la série. Au niveau visuel, alors là c'est l'orgie, parce que encore une fois très peu de coupes. Donc t'as des plans séquences où il y a le maître du feu qui envoie la boule de feu, l'autre il esquive et puis il fait 300 gestes avant de balancer sa boule d'air et tout, et t'as quelques moments comme ça, tu dis ouais, ça le fait. Et bon, après c'est assez fidèle à la série encore une fois, parce que les personnages ils font des espèces de kata avant de balancer la sauce. Donc Aang, il va faire 45 000 gestes avant de balancer juste un petit vortex d'air, ou et puis les gars de la Nation du Feu pareil, ils vont faire, et puis à la fin de tout ça je touche. Donc voilà, c'est à mi-chemin entre la danse, le kata et l'envoi de pouvoir. Le monde qui est dépeint là-dedans, tu y crois, franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai que vaut mieux voir la série si tu veux avoir des personnages un petit peu développés et avoir un rythme assez digne de ce nom, quoi. Donc voilà, on peut espérer qu'il poursuit dans la même voie, surtout que le cliffhanger à la fin du film, c'est exactement le cliffhanger de la série animée. Même personnage, même discours, même lieu, voilà. Le prochain cycle, ce sera le cycle de la Terre. Donc on a vu que le film était assez ethnique, c'est-à-dire que les gens de la Nation du Feu sont plutôt une nation, on va dire, indienne. Indienne, l'Inde, pas les Amérindiens. Les moines, les maîtres de l'air, ce sont des, on va dire, c'est assez apparenté aux moines Shaolin, donc ils sont tous chauves, un peu asiatiques. Les gens de la tribu de l'eau, aux deux pôles, au pôle nord et pôle sud, sont plutôt des caucasiens. Et les gens qui maîtrisent la nation, l'élément de la Terre, sont aussi des asiatiques, mais plutôt Chine continentale. Et comme la séries animées étaient vraiment très axées Asie et avec les bronzés qui étaient les gens de la Nation du Feu, bah il a repris ça aussi. Bah je sais pas, oui, bronzés quoi, bah, les Indiens. Et c'est vrai que c'est un film qui a été taxé de, qui a été un peu attaqué là-dessus, c'est-à-dire oh les méchants c'est les Indiens et puis les gentils c'est les blancs. Bah non, les gentils désolé c'est les Asiatiques et puis les méchants c'est les Indiens. C'est très fidèle à la série, voilà. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé.
Ça a toujours été le gros problème de l'heroic fantasy en général, justement parce que on utilise des races pour créer artificiellement plusieurs clans de protagonistes. Ça a été le gros problème de Tolkien, surtout qu'il avait des amitiés dont il ne se cachait pas avec l'Afrique du Sud, oui, qui était en pleine montée de l'apartheid et de grandes sympathies pour l'Allemagne nazie. Donc ça a toujours été le péché originel, hein, mais de toute façon on le retrouve même dans Conan le Barbare, qui date des années 1900, et on peut pas oui, enfin, les premiers romans et tout ça. Donc
oui,
c'est
dans
pas...
souvenez-vous, dans Le Seigneur des Anneaux, les gentils elfes blonds et blancs par rapport aux serviteurs de Sauron à la fin, qui sont à dos d'éléphants, qui sont voilà. Donc voilà. Le dernier maître de l'air, on rappelle les références. Un film début d'une trilogie réalisée par M. Night Shyamalan, dont on quand même on préférera le style assez épuré, on va pas se cacher, mais il s'en sort haut la main avec Noah Ringer, Dev Patel, Nicolas Peltz et Sean Tube.
Et c'est en projection, en VOVF, en 2D quelque part.
En 2D et en, moi je l'ai vu en VF. Donc après peut-être sur Toulouse y a-t-il une VO, mais moi je pense que je l'aurais vu.
C'est peut-être aussi grand public, donc c'est peut-être oui. Vous écoutez le Supplément Week-end sur Radio FMR 89.1 MHz, et oui, c'est l'été, et pourtant on est en direct. Sauf pour ceux qui nous écoutent en podcast, où là c'est en différé. Et puis c'est pas...
Bah oui, forcément. Ah.
Monoglope, Monobloc, un Pussy Selector, Wonky Tonk.
Paglop.
Paglop. We'll be right back. Ça m'apprendra à ne pas vous écouter. La suite du programme, effectivement, aurait pu aller juste après la chronique cinéma, à savoir le DVD.
Aujourd'hui, on va parler de films pour les filles, alors.
De films pour les filles, alors qu'il n'y a aucune fille dans ce film. Pas une, que des mecs. Il n'y a pas une nana. Hein. Tu peux courir, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Je vous parlais d'un DVD qui est sorti à la fin du mois dernier, le 28, hein, donc c'est tout jeune, tout fresh, de Nicolas Winding Refn, qui nous avait fait, de par le passé,
la trilogie Pusher et Bronson.
Et Bronson, voilà. Et là, bon, ça n'a plus
Bronson
rien à voir.
Bronson avec, dans le rôle titre, Tom Hardy, qui joue dans Inception, qui est méconnaissable.
Et qui joue également.
Ah bon? Dans ce film, d'accord.
Dans ce film, Valhalla Rising, dont le héros principal est Mads Mikkelsen. Alors, un film qui dure plus d'une heure trente, 1h38, et
pourquoi tu fais la moue quand tu dis ça ?
Qui n'a pratiquement aucune musique, quelques petits sons comme ça de temps en temps, beaucoup de silence, dont les premiers éléments de dialogue commencent à la 7e minute. Des éléments de dialogue qui d'ailleurs pourraient tenir, on va dire, sur une double page 21-29 pour l'ensemble du film, dont le rythme n'est pas la qualité majeure. Si vous êtes un adepte des Michael Bay et autres comédies décérébrées, passez votre chemin, ce film n'est pas pour vous, vous allez vous faire chier comme un âne mort, je le dis tout de suite, tout de go. C'est un film qui est plus une expérience sensorielle, une expérience dans laquelle il faut se baigner, il faut se laisser imprégner par les images, par...
C'est marrant, mais quand tu dis ça, l'histoire. Moi je pense à ta vie de famille, comment elle est excitée. Je m'étonne que tu chroniques ça l'été, quand les gosses sont,
les gosses
sont pas loin.
Quand les gosses sont en lit, je précise. L'histoire, elle est très très simple. C'est l'histoire donc de ce guerrier des ténèbres qui s'appelle dans le film One Eye, c'est-à-dire le borgne, hein, car il a un œil qui est un petit peu fermé, un petit peu couturé, on va dire, et qui au départ est un esclave. Un esclave qui va devenir un guide. Un guide et qui va permettre à une bande de fous furieux de trouver quel est leur nirvana. On parle de nirvana, non, bien que là il ne s'agit pas de nirvana du tout, il s'agit plutôt de conscience religieuse, de conscience spirituelle. L'histoire est très simple, le borgne arrive à se libérer de la bande dans laquelle il est captif, c'est un esclave au départ, et on le libère, il passe sa vie dans une cage, on le libère juste pour qu'il puisse combattre des guerriers venus d'autres tribus, de tribus païennes. D'accord, à chaque fois, bien sûr, il gagne. Alors, dans ces combats, je peux vous dire que ça charcle à fond, que c'est vraiment hyper violent, que c'est très trash. Il n'y a pas de problème, là, on reconnaît bien la patte de Nicolas Winding Refn, ça, sans problème. Mais il arrive à s'échapper et il va croiser le chemin d'une bande de chrétiens, hein, de chrétiens qui sont là et qui vont l'enrôler pour partir où ? Pour partir à Jérusalem. On est en l'année 1100, c'est ce qui est dit par le réalisateur. Et donc, eh bien, il s'agit de la première guerre sainte. Il s'agit de délivrer Jérusalem. Et donc, eh bien, ils vont monter sur un bateau et ils vont se retrouver dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et vont croire que c'est Jérusalem, c'est pas du tout la Terre Sainte, non du tout, en fait, gros plantage. Ça, j'en dis pas plus parce que sinon ça risque de spoiler un petit peu. Le seul élément à spoiler en fait de ce film, c'est celui-là. Où arrive-t-il ? Mais il faut plutôt s'attacher sur la qualité visuelle du film, sur les moments très lents. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a que les scènes d'action quand ça charcle de temps en temps, hein. Vraiment, c'est pas l'élément majeur du film, les combats, les trucs comme ça. Mais quand ça arrive, le rythme du film est tellement lent, est tellement statique, on va dire, que quand ça arrive, on est surpris de la rapidité avec laquelle ça arrive. Et ça se finit pratiquement aussi rapidement que ça a commencé d'ailleurs. Mais enfin, les résultats sont assez époustouflants quand même, hein, de toute façon, ça, y a pas de problème. C'est un film dans lequel on rentre donc et on a une espèce de voyage, hein. C'est carrément un voyage qu'on peut faire dans ce film, parce que même quand les personnages sont confrontés les uns aux autres, ils ne se déplacent pas. Ils sont statiques, ils restent, ils ne bougent pas. On a l'impression quand d'avoir une suite de photos, de plans, comme ça qui sont filmés les uns après les autres. Attention, il y a très peu de plans séquences. Hein, il y a beaucoup de plans où on voit le paysage, on voit les magnifiques paysages. Tout a été filmé en Écosse dans les Highlands, et donc là c'est sauvage, c'est magnifique, c'est impeccable. Là, le réalisateur a fait un super boulot. Il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez aller un jour dans ce coin-là, il n'y a pas de problème. Là où il n'y a personne, pas une âme qui vive, bah, c'est là-bas qu'il faut y aller, il n'y a pas de problème. Hein, par contre, il faut dire aussi que bien ça, on le découvre après quand on regarde le petit documentaire qui est fait, l'interview de du réalisateur, et c'est là qu'on se rend compte que bah ok quoi, il y avait quand même une volonté implicite de la part du réalisateur de tourner de cette façon-là et de nous livrer ce film tel quel, hein, c'est-à-dire avec des images qui font penser ben, pratiquement à des plans de bande dessinée quoi. J'ai eu un commentaire de quelqu'un à côté de moi qui a dit tiens, bon, ça pourrait être une bande dessinée en fait, hein, parce que bon bah ce sont des plans images fixes, les personnages ne bougent pas et tout, bah ça pourrait être une bande dessinée quoi, tout simplement, qui a été refilmée quoi, mais sans l'action, sans les déplacements, sans les mouvements. Rien. Et c'est là que c'est vraiment le truc le plus beau en fait, hein, c'est qu'on arrive à adhérer. Enfin moi personnellement j'ai adhéré au film et je me suis pas emmerdé du début jusqu'à la fin. Donc là c'est ça veut dire que c'est quand même pas mal quoi, parce que bon bah vraiment c'est pas le film qu'on va voir si on a envie de voir de l'action, des trucs qui débourrent et tout. J'aime bien, mais bon de temps en temps aussi ça fait du bien de tomber sur des espèces d'ovnis comme ça, parce que c'est vraiment un ovni, ça y a pas de problème. Hein. Ce film était à l'affiche à l'Utopia, n'est resté qu'une semaine à l'Utopia, alors que d'habitude c'est
pas.
Bah,
il était pas russe, il était pas juif.
Non, je crois pas.
De toute façon, le film il était pas de gauche et puis Zadé n'en sait rien, alors c'est pour ça.
Non, mais c'est vraiment un film qui est très spécial. Il y a pas de problème, hein,
Ah voilà, qui c'était un film d'auteur.
Ah oui, non, mais là d'auteur, je veux dire, là ça dénote vraiment, ça décale complet. Hein. Il y a pas de problème. Hein. Il y a très peu de références. Il y a une référence qui m'est venue à l'esprit à un moment donné sur une scène qui ressemble étrangement à la scène, enfin à la très longue scène dans Aguirre, la colère de Dieu, quand ils sont sur le radeau et qu'ils sont au milieu du fleuve, et puis que autour d'eux, eh bien la végétation, il y a peut-être quelque chose, mais ils ne le savent pas. On ne sait pas. Il y a quelque chose. On est ouais, au milieu de quelque chose.
Ça me faisait penser justement à Aguirre ou à Deadman aussi, le côté rock'n'roll en moins. Avec l'expérience un peu où tu es trimballé un peu à mi-chemin entre le zombie et le côté vivant, et tu sais pas trop en fait c'est où tu vas, en fait tu t'en fous, en fait c'est juste le fait de naviguer à vue.
Tout à fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans ce film. De toute façon, ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on a quelques dialogues, c'est uniquement l'affrontement entre les différentes prises de position des personnages par rapport à leur religion, par rapport à leur croyance. Hein, c'est le passage entre un ancien monde, le monde des croyances, entre plusieurs dieux, des éléments divinatoires, et l'arrivée de cette nouvelle religion qui va carrément se répandre pratiquement sur tout le monde qu'on connaissait à l'époque, hein, le Moyen-Âge, à savoir le christianisme. Et là, bon, bah, ok, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, que le spectateur peut se poser à propos justement du rapport à la religion, du rapport à la foi aussi, parce qu'il faut savoir que par exemple dans la Bible, le mot religion n'est jamais écrit, jamais cité. On parle de foi dans la Bible, on ne parle jamais de religion. Et là aussi, c'est l'élément qui est l'un des éléments majeurs en fait du film Valhalla Rising. Hein, c'est justement ce rapport que les gens peuvent avoir à la foi et quels sont les agissements que ces gens vont pouvoir avoir, ou qu'est-ce qui va déterminer par rapport à leur foi, leur futur, leur façon d'être, leur façon de se projeter. Et c'est là que Winding Refn est très fort, parce que il y a, on va dire, 2-3 niveaux de lecture tranquilles dans ce film. C'est Valhalla Rising, donc j'en dirai pas plus, avec Mads Mikkelsen qui est tout simplement excellent. Alors lui, c'est pas compliqué, il est borgne et il est muet, il n'a pas un mot de dialogue, que dalle. Mais le petit truc scénaristique pas mal, c'est que au début il n'y a que quelqu'un qui peut l'approcher, c'est un petit enfant, hein, qui est également un enfant égaré et tout, et qui est le seul qui peut l'approcher qui est dans sa cage, parce que c'est celui qui lui ramène à manger quand il est enfermé dans sa cage au début du film. Et donc quand il réussit à s'échapper, eh bien le gosse part avec lui, et donc c'est le gosse qui, quand il répond, eh bien représente un petit peu la voix et la pensée du guerrier des ténèbres Mads Mikkelsen.
Alors voilà, il faut expliquer voilà à nos amis auditeurs qui n'ont pas payé leur redevance couleur que Thomas est en train de se boucher les oreilles pendant que du sport a oublié les balises spoiler.
En plus, on peut même pas appeler ça spoiler, mais
Non, c'est pas du spoiler. Hein, c'est,
mais vu qu'il se passe pas grand chose, déjà que tu racontes ce qui se passe et qu'il se passe pas grand chose.
Que le film ne dure
que
la barre
de spoilage est en fait est abaissée. Donc...
ouais, mais c'est plus l'appréhension, la compréhension personnelle du film, hein, qui va différer selon les gens qui vont le voir, hein, qui est mise en cause. C'est uniquement ça en fait, parce que sinon, je veux dire, l'histoire est vraiment linéaire, il se passe pas grand chose et tout. On s'attend d'ailleurs à la fin. Au bout d'un moment, on se dit bon, ça peut pas terminer autrement, il y a pas de problème et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que au départ, enfin à la fin du film, on se dit, où est-ce qu'il a pu bien être cherché une histoire pareille, c'est complètement tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune référence, on va dire, il y a très peu de références historiques au départ. Et dans le documentaire, justement, Winning Refn, revient sur le fait de l'origine du film, et c'est une origine complètement inattendue, enfin pratiquement inattendue, en fait, et c'est une origine qui est très historique, au contraire. Valhalla Rising donc de Nicolas Winding Refn, ça vient de sortir en DVD, ça vaut vraiment le coup, moi je vous le dis franchement quoi, ça vaut le coup.
C'était sorti le 10 mars dernier au cinéma en France.
Et c'est sorti il y a pas longtemps au cinéma, sortie technique on peut dire, hein. Même dans les salles d'art et essai.
Ce qu'il y a de rigolo, c'est la pub télé, parce qu'il y a une pub télé sur ce DVD, et il dit ouais, Valhalla Rising, le guerrier silencieux, ouais, avec la voix qui dit ouais, ce truc de barbare,
ouais, c'est la bande-annonce qui vaut toutes les bandes-annonces, hein, à savoir, laisse tomber quoi, te fie pas à la bande-annonce, ouais. Parce que sinon t'as tout faux, hein.
Merci. 13h, 8 minutes et 12 secondes sur la poubelle des radios. J'ai oublié le top sonore. C'est pas sympa. Heureusement, j'ai pensé à mettre un générique pour la partie télévisuelle. Du coup,
hein, allez,
on va laisser peut-être du sport boire. Eh oui, c'est l'été, c'est les rediffs. Quoique ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu cette série sur les écrans.
Ah bah, rediff.
C'est quoi ? C'est vrai que j'aurais aimé l'autre musique, mais bon.
C'est Mal et Chanté ?
Bah ouais.
Ouais, mais bon, c'est pas l'original.
Moi, je le
regarde pas. Non, ça, c'est le. C'est la face B.
Ouais. Bah si, écoute, de l'inédit, il y en a quand même, hein, je te signale, quoi, mine de rien, quand même.
Ah, tu parles du prisonnier sur Arte ?
Ah non, pas du tout, non, pas d'une rediff, d'une des émissions, d'une des séries cultes, mais par contre de Castle.
Ah, on l'a pas eu lundi dernier ?
Ben non, on l'a pas eu sur... Non, mais ce n'est que partie remise, parce que lundi prochain, ça redémarre avec déjà la saison 2. On avait déjà eu un aperçu de la saison 2, il y a 15 jours, où le dernier épisode, les deux derniers épisodes, étaient déjà des épisodes de la saison 2.
Oui, bon, le cliffhanger, il était vraiment molassant.
Que quand France 2 se fait vendre des séries par TF1, ils sont obligés de suivre le même ordre que TF1 ?
Ah non, ils suivent dans l'ordre,
ouais.
Là, en plus, c'est plus ou moins obligé, quoi. C'est ça, hein, parce que bon, il y a quand même une espèce de petit fil conducteur et tout, hein,
sur la première saison.
Oui, sur le crime lié à l'inspecteur Beckett.
Je me suis planté.
Oui, d'accord. Oui, celui-là, quoi. Mais enfin, qui est encore très latent.
Thomas, toi aussi, tu suis.
Moi, franchement, alors moi personnellement, Castle, c'est un peu un paradoxe, parce que j'ai suivi la série au début, j'ai trouvé que les tout premiers épisodes étaient pas mal, puisque justement, lui, il avait un côté cynique et je prends les flics de haut parce que j'ai la science infuse et puis que comme je suis un grand auteur, je connais tout le monde dans la ville et puis vous avez même pas vos entrées dans les restos, et ça c'est un peu atténué au fil des épisodes et finalement il se comporte comme un flic
tout à fait, ouais,
et je trouve ça c'est finalement la série elle est un peu mollassonne,
quoique j'ai beaucoup ri quand il arrive avec son gilet pare-balles writer.
Oui, et alors, par contre t'as une apparition de Stephen G. Cannell et Michael Connelly aussi dedans.
Michael Connelly, j'allais en parler, et de James Patterson, c'était la première, il y a deux séances de poker dans la première il y a James Patterson, et dans celle qui est un peu plus récente c'est Michael Connelly, donc hein, Harry Bosch, toute la bande, hein, et le bouquin dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps, que ça, les éventails. Hein, donc on peut mettre enfin un visage sur Michael Connelly. Si vous achetez les bouquins, hein, c'est au dos des bouquins.
Le bouquin qui sort au milieu de la série a été vraiment sorti. Hein. C'est-à-dire ils ont fait rédiger par le groupe de scénaristes, ils ont fait un polar.
Ah d'accord.
Et ils l'ont sorti sous le nom d'ailleurs de Eric l'acteur Cassel. Et tout, Eric Cassel. Et je sais pas s'il a été traduit en France. C'est dommage d'ailleurs de ce côté-là, puisque là la chaîne d'origine a vraiment joué à fond le jeu de ce côté-là, de l'immersion du téléspectateur.
Ouais. Alors donc justement, on parlait de fil rouge, hein, donc dans la première saison, c'est le fait que Dick Castle, il va justement se servir de son immersion dans ce service de police pour rédiger son prochain bouquin, parce que il a tué le héros de tous ses best-sellers précédents, donc il lui faut du sang neuf, il lui faut une écriture neuve, et c'est pour ça que dans la première saison, il se retrouve dans ce service de police et tout, au détriment des inspecteurs et inspectrices, hein, qui le trouvent un petit peu pédant, tu viens de le lire, qui les prend un petit peu de haut. Et dans la saison 2, justement, le deuxième fil rouge, hein, le petit truc latent et tout, ça va être l'enquête parallèle, on va dire, qu'essaie de mener Richard Castle sur le passé de Stana Katic, qui interprète le rôle de Kate Beckett, donc l'inspectrice principale, la patronne.
Voilà, c'est le meurtre de sa mère.
Le meurtre de sa mère, donc. Et il y a 15 jours, on a pu voir le dernier épisode qui s'appelait Qui tout double, qui se passe dans le milieu de la mode et tout, avec Julian Sands comme guest principal, hein, c'est lui le patron, c'est le créateur de mode et tout, et à un moment on se dit, oh, s'il y a Julian Sands dans l'épisode, il n'y a pas de problème avec sa tronche, c'est lui le coupable. Ben non, c'est tout con. Alors, ce qui est intéressant, moi ce que je trouve intéressant dans cette série, hein, c'est que il y a un petit ton badin comme ça, un petit ton léger, très tranquille.
Ouais, si, il donne pas des déductions, il dit, ah ouais, ça fait une super histoire, et
il y a plein de vannes et tout, mais par contre ils ont toujours à enquêter sur des meurtres qui sont très craspecs, très trash et tout, très glauque, enfin moi
la traduction est hyper cinématographique, superbe.
Pour ça c'est pas mal, hein. Associé au fait que Nathan Fillion, il y a pas de problème, hein, il est vraiment très très bien, hein. Et que les autres rôles vont
Firefly, hein, c'était ça.
Ouais, Firefly, on le voit également dans quelques épisodes de Buffy, hein. Nathan Fillion,
forcément.
C'est la Joss Whedon Collection.
Oui, je m'en rappelle plus qu'il était
obligé quoi. Et on connaissait pas Stana Katic, mais il faut dire qu'elle se démerde très très bien, en plus d'être bien canon, hein, ce qui ne gâche rien, il y a pas de problème,
ça va.
Alors cet épisode Qui tout double, hein, qui a déjà été diffusé il y a 15 jours, sera rediffusé en principe d'après le programme que j'ai lundi à partir de 20h35, mais après bien deux épisodes inédits, l'escroc au cœur tendre qui sera le quatrième, et l'auteur qui m'aimait qui sera le cinquième. À signaler que dans la première saison il n'y avait que 13 épisodes, alors que quand ils ont signé pour la première saison, ils se sont dit on va voir si ça marche et tout, comme d'habitude, c'est le credo habituel des chaînes américaines. Ils ont vu que ça marchait pas mal, et là deuxième saison, 24 épisodes, une saison complète quoi, donc on va pas bouder notre plaisir, c'est sur France 2 à partir de lundi 20h35. Sinon, du côté des reprises, mais reprises vachement intéressante quand même, hein, ça vaut le coup, vous êtes en été, vous avez le temps et tout, vous avez loupé le début de Fringe, la rediff sur TF1, c'est tous les samedis soirs à partir de 23h10.
C'est hyper décevant, il y a que la VF, alors qu'ils avaient fait une première diffusion en version multilingue.
Moi j'ai marqué version multilingue, hein, je suis désolé.
Ouais,
hein.
Nous quand on l'a regardé,
VF. Oui, je suis désolé, hein, je vérifie, on pourra pas vérifier ce soir.
Alors à vérifier, parce que quand même en VO, il y a des putains de jeux de mots.
Oui.
Qui passe des allusions dans le dernier épisode quand ils arrivent à New York, c'est quand vous entendez des bruits, who do you gonna call?
On n'en est pas encore au dernier épisode.
Immense.
Vu que ce soir ce sera la moitié de la saison, hein, avec les épisodes 9, 10 et 11 de Fringe, donc c'est ce soir sur TF1 à partir de 23h10. Sinon, autre bonne rediffusion, et là ça vaut le coup, parce que là je vous parle du début de cette rediff, on parlait de Joss Whedon avant, on est en plein dedans avec Dollhouse, qui est rediffusé sur Teva ce soir à partir de 20h35. Les quatre premiers épisodes de cette série,
très
Elisa Dushku est l'héroïne principale. La Dollhouse, en fait, c'est un entrepôt où sont entreposés des corps, des espèces d'entités, ces personnages peuvent se changer et peuvent remplir n'importe quelle mission, c'est-à-dire on peut très bien utiliser un Dollhouse, une poupée, une doll, pour une soirée, c'est-à-dire allez je te loue, t'es ma pute, ou alors
avec telle personnalité,
être mission avec telle personnalité, ou alors mission d'agent secret, enfin tout et n'importe quoi, hein, donc c'est à ça que servent ces dollars, qui sont des individus qui sont décérébrés, qui n'ont aucun souvenir, aucune mémoire et tout, donc qu'on peut utiliser qu'on peut initialiser comme un ordinateur pour faire remplir n'importe quelle mission.
À noter que quand ils l'ont diffusé sur Teva, ils ont passé un épisode qui n'a pas été diffusé aux États-Unis, qui était censé être l'épisode conclusion, parce que Joss Whedon, maintenant, il est assez pessimiste sur le devenir de ses séries. Il s'est dit, si la deuxième série n'est pas signée, ils ont tourné dans la foulée de la fin du dernier épisode, un épisode pour le fun, qui est censé être une conclusion et qui se déroule bien après, et Teva l'a passé. Mais sans prévenir. Et c'est pas mal. Ça donne un tout autre éclairage par rapport à la série, puisque là, ça part encore plus loin dans la science-fiction. Ça se déroule bien après. Mais du coup, ben, ça spoil un peu ce qu'il a voulu faire.
Voilà. Bon, c'est bah, l'intérêt de la série, c'est justement que la poupée Elisa Dushku, eh bien, commence. Alors qu'elle devrait pas, normalement, hein, si elle avait été bien déprogrammée, commence à se rendre compte qu'elle a quelques petits souvenirs qui lui reviennent, des petits flashs, des petits trucs comme ça, quoi. Et donc, au fur et à mesure de ses missions, elle va essayer de remonter dans son passé, elle va essayer de savoir qui elle est exactement. Et pas toute seule d'ailleurs, hein, elle va rencontrer d'autres personnages, soit dans l'encadrement, soit parmi ses collègues, hein, qui vont essayer de l'aiguiller sur son supposé passé. Donc là, c'est vraiment passionnant. Vraiment,
ça vaut le coup, hein.
C'est vraiment très très bien. Donc c'est ce soir sur Teva à partir de 20h35 les 4 premiers épisodes. Autre mini-série,
ça fait lourd.
Autre mini-série qui était vraiment très sympa. Là, il s'agit d'une série anglaise. Il s'agit plutôt de téléfilm, on va dire. Enfin bon, c'est une durée un peu bâtarde parce que c'est pas des 52 minutes, c'est des 1h10, 1h15. Donc c'est entre le téléfilm d'1h30 et l'épisode de série. Ça s'appelle Golden Hour et ça a été diffusé en Angleterre en 2005. Tous les épisodes ont été réalisés par Tim Leandro et ça raconte l'histoire d'une équipe de médecins et d'infirmiers urgentistes qui ont pour tâche, eh bien, justement, d'essayer de sauver les gens qui ont été victimes d'accidents. Et la Golden Hour dont il est question, en fait, c'est l'heure qui suit
l'accident.
C'est l'heure dans laquelle on a le plus de chances de sauver ou de récupérer les gens qui ont été blessés ou qui sont pratiquement mourants. Et donc, chaque épisode, eh bien, est pratiquement en temps réel. Hein, c'est-à-dire que on va avoir les. Ah
oui, donc c'est pour ça que justement, ça n'est pas la durée d'un épisode normal.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment du temps réel, hein, c'est un petit peu aménagé, mais c'est pratiquement en temps réel. Et donc, on va voir parallèlement, eh bien, les gens, l'assistance médicale qui va essayer de sauver les gens, mais également les enquêteurs de leur côté qui vont essayer de se demander. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé et tout? Et ce ne sont jamais vraiment que des accidents de la route ou des petites choses comme ça. Il y a bien entendu d'autres choses qui se passent derrière et tout. Alors donc c'est ça, ça joue sur les deux côtés. Ça joue sur le côté, bon bah purement médical, à l'urgence et tout. Oh, il faut le sauver, allez vas-y, NHS, tout le bordel et tout. Et l'autre côté, il y a également l'enquête policière qui permet de dénouer le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi des gens ont été blessés, ont été tués? Enfin voilà, c'est assez passionnant de toute façon. C'est anglais. C'est très très bien foutu. Ça s'appelle The Golden Hour. Ce sera diffusé eh bien mardi prochain sur TF6 à partir de 22h20. Deux épisodes. Le premier hors de contrôle -10. Le deuxième à 23h40. Intervention à haut risque qui est -12. Parce que c'est quand même assez rentre dedans. Il faut le signaler. Et je reviens également vite fait sur The Bridge qui est diffusé tous les lundis sur 13e rue à 20h40. Ou alors rediffusé sur cette même 13e rue. Le vendredi, à partir de 22h10, là, on en est aux épisodes 8 et 9. Le 8, c'est Painted Ladies. Et le 9, Lena Never Let Me Down. Une bonne émission canadienne de flics. C'est sympa. Ça se laisse vraiment bien regarder et tout. C'est cool. Non, vraiment, ça vaut le coup. Quelques petits films à présent ce soir avec le retour de Sabata sur RTL9 avec Lee Van Cleef. Mais il y a également auparavant sur RTL9 cet après-midi 17h40 L'étale de Dustin Rickert avec Heather Marie Marsden et Lorenzo Lamas.
Ah.
Et en plus de Lorenzo Lamas, t'as Frank Zagarino. Alors c'est pas cool
bonus.
Ça.
Bonus.
Hein Alors il y a également sur AB1 ce soir Python de Richard Clabeau avec Troy Rozanoff, Robert Englund et Casper Van Dien.
Mais surtout. Spéciaux.
Mais surtout, ouais, les effets spéciaux.
Je tournais avec effets spéciaux.
Ouais, ouais.
J'aime beaucoup.
Mais
ce
surtout
fait.
Ce soir sur TCM,
oui,
à 20h40,
chose,
marqué par la haine de Robert Wise en 56. Mmh. Magnifique, excellent. C'est la biographie de Rocky Graziano, interprétée par Paul Newman, Pierre Angeli, Everett Sloan et Steve McQueen. Mais Steve McQueen, regardez bien parce que vraiment il a un petit rôle. Hein. C'est un de ses premiers, si pas le premier. Demain sur RTL9 à 20h35, Rédemption de Phil Joannou avec Dwayne Johnson, Dwayne The Rock. Johnson Exhibit, le mec qui fait Pimp My Ride, la version américaine.
Ah oui, le rappeur, oui.
Oui. Leon Rippey et Kevin Dunn, où Dwayne Johnson joue le rôle d'un entraîneur de football américain qui va se retrouver à coacher des gens qui viennent des quartiers difficiles.
Ah là là là.
Mais c'est The Rock, pas de problème.
Exhibit est un acteur qui est vraiment pas mauvais. Ouais, il est capable de faire dans le côté humoristique justement par l'émission Pimp My Ride. Et il est capable de faire des trucs hyper noirs, soit des truands, soit des indiques, soit des mecs vraiment torturés. Hein,
ouais, des trucs de black quoi. Alors, TMC demain soir. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui. Sur TMC demain soir, soirée Agatha Christie, mais pas avec ceux qu'on connaît d'habitude. Le gros classique, mais c'est vraiment l'un des meilleurs quand même. Le 20h40, Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet avec Albert Finet dans le rôle de l'inspecteur Poirot. Lorraine Bacall, Ingrid Bergman, Martine Balsam. Enfin, tu regardes le générique, enfin le casting de Crime de l'Orient Express de Lumet, tu dis wow. Tu prends n'importe quel de ces acteurs et tout, ça a été l'acteur principal d'un film ou de plusieurs films de par le passé. Et ensuite un film un peu plus récent de 1980 de Guy Hamilton, Le Miroir se brisa, où là aussi t'as le casting d'enfer avec Liz Taylor, Edward Fox, Angela Lansbury, Kim Novak et Rock Hudson. Encore un film très vieux demain soir sur Polar à 22h55, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est Du sang dans le soleil de Frank Lloyd. Avec James Cagney, Sylvia Sidney et Porter Hall, James Cagney qui interprète le rôle d'un journaliste qui est dépêché à Tokyo et qui va se rendre compte que les méchants japonais on est en 1929, donc
ah oui, mais c'est l'un des premiers talkies, pardon.
On est pratiquement 10 ans avant. Non, le film a été tourné en 45. Mais l'action se passe en 1929 à Tokyo, où James Cagney, journaliste, se rend compte qu'il y a un complot ourdi par les Japonais pour être les maîtres du monde. Oh là là, mais heureusement c'est Jimmy Cagney, il n'y a pas de problème, t'en fais pas, il va tous les avoir.
Je me souviens bien dans l'histoire d'ailleurs, il est journaliste pour un quotidien local en langue anglaise.
Lundi,
très bon.
Lundi sur France 2, 22h40, après Castle, donc le Parrain 2, nickel quoi, que pour moi je trouve que c'est le meilleur. Hein. Arte vous propose dans la série Les Westerns de l'été à 20h35 La Conquête de l'Ouest, dont je vous ai parlé, reparlé à chaque fois. 3 Oscars, 3 réalisateurs, John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, et alors le casting également qui tue de l'enfer, Henry Fonda, Carol Baker, John Wayne, James Stewart, Karl Malden et tous les autres. Sinon sur RTL9 lundi, il y a également à 20h35 Invasion USA de Joseph Zito avec Chuck Norris, et juste après à 22h25 Cyborg d'Albert Pyun avec JCVD et Dale Adon. En même temps sur TMC, mais ça c'est dispensable à fond, Vol d'enfer de Michael Koch. Et si je dis Michael Koch, ça veut dire Steven Seagal. Mais les Seagal pourris, hein, je précise. Sur AB1 à 20h40 lundi, Tracker de Jeff Schechter avec Casper Van Dien, Russell Wong et Françoise Robertson. Sur TCM, Le point de non-retour de John Boorman. Alors le titre est mal traduit parce que le titre original c'est Point Blank. Point Blank qui veut dire à bout portant en anglais. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment excellent. C'est vraiment un film excellent. Avec Lee Marvin dans le rôle titre, enfin dans le rôle principal, et John Vernon. Sur Polar, lundi toujours, à 22h25, Nick Carter va tout casser d'Henri Decoing avec Eddie Constantine. Magnifique, c'est l'époque où, dans les films français, les films de gangsters et tout, quoi, quand les mecs ils se battaient et tout, quoi, ils se filaient des claques, tu sais, paf! C'était pas des coups de poing, c'était des claques, paf! Et puis, t'avais les silencieux qui faisaient pu. Enfin, c'était la bonne époque. Quoi,
Eddie Constantine avec son putain d'accent.
Ouais, Eddie Constantine. Quoi.
Gigantesque.
Sur Action également lundi, Martial Outlaw à 20h40 de Kurt Anderson avec Jeff Winkott et Gary Hudson. Ça, c'est du lourd. Mardi sur France 2, Le Cercle Rouge, ça c'est du très lourd, hein, de Melville, avec Alain Delon, Yves Montand, John Maria de Volonté et François Perrier. Sur Canal Plus.
Un bon film avec Delon.
Non, tu confonds. C'est le film d'après avec Bourville, Le Mur de l'Atlantique.
Non, Bourville, il est dans Le Cercle Rouge.
Ah ouais, t'es
sûr. Et d'ailleurs, il est même crédité en tant que André Bourville, c'est son dernier rôle d'ailleurs.
Stop. À vérifier.
On a internet, monsieur.
Ah bah ouais, c'est cool.
Donc j'allume
moi.
Le modem.
Alors sur Canal Plus Cinéma, 20h45, Appaloosa de Ed Harris avec Ed Harris.
Pardon, il fait l'inspecteur. Oui, pardon, je m'excuse.
Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger et Jeremy Irons dans un très bon western.
C'est sur quoi ça?
Appaloosa, c'est sur Canal Plus Cinéma, mardi prochain. RTL9 vous propose enfin l'original, le premier, 20h35, le ninja blanc de Sam Firstenberg.
Ils sont passés dans le désordre
avec,
complet.
Ouais, ouais, dans le désordre complet avec le dernier, oh, n'importe quoi. Et là, il passe enfin, le 2, c'était la semaine dernière. Et là, enfin, Michael Dudikoff, jeune, beau et magnifique et tout, le ninja blanc, le seul, le vrai.
C'était avant qu'il mange des cheeseburgers, c'était avant qu'il court à Baywatch, c'était avant qu'il joue dans les voitures et c'est avant qu'il se fasse roaster sur.
Non, mais Michael Dudikoff, il a jamais été à Baywatch. Hein.
Non, je crois pas, non, mais enfin, bon, c'est pas grave.
C'est pas David Hasselhoff, hein.
Vas-y, continue. Faites tes recherches.
Attends, Hasselhoff et Dudikoff, attends, on va le voir.
Ah ouais, ouais. Alors, toujours mardi, TF6. Et pourquoi on a le truc de la bande de secours, là?
Non, c'est le
bien. Ah bon, ok, d'accord. Sur TF6, mardi, Chalaco d'Edouard Mitrick avec Sean Connery, Stephen Boyd et Brigitte Bardot. C'est encore un western, bien sûr. Et sur Polar, c'est le retour pour l'été à 21h. Bien joué, Matt Helm. C'est le deuxième de la série d'Henry Levin avec Dean Martin dans le rôle de Matt Helm. Anne-Margret et le méchant est Karl Malden. À 22h45, Sang et Or de Robert Rosen en 47. Encore une histoire de boxe. Avec John Garfield dans le rôle titre, Lily Palmer, Harvey Brooks et William Conrad en 47, Nero Wolfe, l'homme à l'orchidée, les gars. John Garfield qui a loupé vraiment pas mal de choses et tout. Faut dire que il est mort vachement jeune, hein. Il est né en 1913, il est mort en 1952. Et il commence sa carrière en 38 avec Michael Curtis qui, l'année suivante, ou la même année, nous faisait le Robin des Bois avec Errol Flynn. Michael Curtis, quoi, hein, quand même. C'est lui qui interprète le rôle principal dans The Postman Always Rings Twice. Le facteur sonne toujours deux fois. La première version de Ty Garnett en 46. Il joue également dans Humoresque. Il joue également dans We Were Strangers en 49 avec John Huston, Les Insurgés en français. Et John Garfield, malheureusement, il meurt en 52 parce que sinon il aurait eu une putain de carrière sans problème et tout. C'était vraiment un très beau acteur. Et là, il joue également le rôle d'un boxeur qui va être partagé entre des managers corrompus et des trucs comme ça. Enfin bon, la boxe telle qu'on se l'imaginait dans les années 50. Mais c'est vraiment très très bon, hein. C'est un excellent film. Mercredi sur RTL9, de toute façon mercredi il n'y a pas grand chose. RTL9 à 22h10, Résurrection de Russell Mulcahy.
Toujours.
Christophe Lambert. Sur France 4 par contre, on pourra jeter un coup d'œil sur Le Sang des Vikings de David Lister avec Jane Marsh. Yeah.
Ah ouais.
Et
ah
William
ouais.
Gregory Lee. Ah
attends,
ouais.
Je viens de capter, attends.
Ouais.
C'est sur quelle chaîne ça?
C'est France 4, mercredi. Ah. Ou alors sur AB1, 20h40, Hot Boys de Master P. Celui-là il est pas mal, mais c'est pas le meilleur, avec Silk, avec Sheeran Crutchfield, avec Snoop Dogg et avec Master P, bien sûr, hein, c'est normal. Hein.
Pas déconner.
Pas déconner, quoi. Jeudi, RTL9 vous propose une excellente comédie américaine de Judd Apatow à 20h35, 40 ans et toujours puceau, avec Steve Carell. Non, mais c'est pas mal, moi je trouve franchement que c'est quand même pas mal.
Mais bon, ouais.
Catherine Keener et Seth Rogen. Sur NT1, par contre, Le Bar du Téléphone à 22h20 de Claude Barrois en 80. Avec Daniel Duval, Raymond Pellerin, François Perrier et un certain acteur qui allait devenir vachement célèbre plus tard, un certain Christophe Lambert, mais dans un petit rôle. Sur 13e rue à 20h40, Meurtre très rapproché de John Flynn en 99 avec Stephen Baldwin, Tyne Daly et Robert Knepper. T-Bag.
Oui.
Eh ouais, il avait une vie avant. sur AB1 à 20h40, Bidas Academy de Max Pécasse en 78. Tu vois, Police Academy, ils ont tout piqué avec Sylvain Green et Jean-Marie Longoal.
Pas du quota franco, non.
Et si. Et sur Polar, 21h, L'Enfer de la Corruption d'Abraham Polonsky en 48 avec John Garfield encore. Tom Gomez, Roy Roberts et Mary Windsor.
Attends, on avait parlé d'Angélique la semaine dernière.
Ouais, non, c'est bon. Vendredi prochain sur RTL9 à 22h15 dans la case Asian Shaolin Cinema. Ah. Sword in the Moon de Kim Hoi Suk en 2003 avec Choi Min Soo. Alors je vous ai pris tous les mecs qui avaient des noms qui se terminaient par Soo, comme ça c'est facile. Choi Min Soo, Lee Young Soo et Yoo Yeon Soo.
D'accord.
Et il y en a d'autres. Les autres, ils s'appellent Young à la fin. Alors je me suis dit, je vais prendre les plus faciles. Un de sabre d'époque, donc, mais coréen, comme vous l'avez compris, d'après les noms des mecs. NT1 vous propose vendredi prochain 20h35. Python! Ah ouais, le retour! Oh. Avec Egglou de Casper Van Dien, William Zabka. William Zabka, c'est celui que tu retrouves dans le Python 2, hein, d'ailleurs, hein. Parce que les autres, tu les retrouves pas, quoi. Ils ont été bouffés, quoi. Ou alors, ils avaient pas de cachet suffisamment important.
Ah, mais je croyais également que c'était le film Python, avec un flingue.
Non, c'est pas Police Python, je sais pas quoi.
Non, c'est pas Police Python.
C'est pour essayer de la caler, celle-là. Bon.
Ou alors, si vous préférez les mammifères, sur Civil Mammouth de Tim Cox.
Attention, avec il est méchant.
Vincent Ventresca, Summer Glow et Tom Skerritt. Mais attention, celui-là, il est pas si mal que ça, franchement.
Bah ouais, Summer Glow et Tom Skerritt.
AB1 à 20h40, Témoin à risque de Roddy Harrington avec Jeff Daniels et James Spider. Ah ouais, bah on se demande, hein, ouais, d'accord. Sur Polar, du plomb pour l'inspecteur de Richard Quine avec Fred McMurray, Kim Novak et Dorothy Malone, ça c'est du polar pur et dur, hein, de la bonne époque. Sur FX, on termine avec ça d'ailleurs, avec le Peplum et le Western de rigueur. Sur FX, c'est le Peplum Ulysse contre Hercule de Mario Caiano avec Michael Lenn et George Marshall. Et sur Action, un excellent Western à 21h, Fureur Apache de Robert Aldrich,
oui,
avec Brut Lancaster. Alors celui-là, il dépote, attention là. Là, si tu veux voir qu'un western, tu peux regarder celui-là, il y a pas de problème, hein. Ça dénote pas trop par rapport à l'époque actuelle, tu vois quoi, parce que c'est hyper violent.
Mais c'est bien avant le western spaghetti.
Non, c'est à la fin du western spaghetti, c'est en 72 là. Donc là, le western spaghetti est déjà en train de s'étioler. Et passer à la veine comique avec les Terence Hill et tout ça, voilà quoi.
Ouais, bon, d'accord, ok. Je me suis encore planté, mais aujourd'hui j'ai pas la forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Et tu n'as pas regardé Arte dimanche dernier où il y avait une thématique Western Spaghetti?
Bah non, on était invité à manger une choucroute, pas des spaghettis. Thomas, comment dire, l'émission a été pitoyable pour moi. Peux-tu faire un résumé pour compter les points et savoir ce que je me prends dans la gueule?
Alors, nous avons eu du manga expédié, des lois du talion, le retour d'une rousse, des bastons de super-pouvoirs sans trombone, des barbares lents et bouchés, un écrivain chez les poulets, des poupées amnésiques, Exhibit fait des trucs de black, des pitons, des cyborgs, des cigales pourries, un ninja blanc, des bidas, Xavier confond David Hasselhoff et Michael Dudikoff, celui-là on s'en souviendra, et des Coréens en sous et en on.
Non d'un samedi noir autoroutier, parce qu'un samedi noir boursier, entre nous, il y a peu de chance quand les bourses mondiales sont en week-end à Houssien. Non mais quand même, vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée et à nos archives et à notre podcast, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites. Par exemple cette semaine, les chroniques des bouquins Folle Passion, Okusai, Angel Voice, si vous n'avez pas compris le gag en début d'émission, mais aussi nos fameuses crevettes du Fantasy Mondial, si vous aimez manger du crustacé spatial. Et aussi plein de choses. Pour cela, c'est très simple, suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM, et on continue sur radio-fmr.net 24h sur 24. Dans le prochain épisode, je sais pas encore, mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao!
Ciao, bye bye, see you! Et de suite, c'est du sport. Rendez-vous samedi prochain, donc à midi. Pour une fois, on n'a pas trop débordé. 4 minutes 53 suivant l'horloge atomique de la radio. Plus.